fort et reclus.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Fort et Reclus à l'Élysée. Donc il y a 15 jours, il n'y avait pas d'émission, mais nous sommes là, nous sommes le 18 novembre, et donc sur Radio Péril 203, 102.3 FM et 95.9 MHz sur Radio Plaisance.
Aujourd'hui on va parler du handicap considéré d'un point de vue critique et politique. Donc, comme référence, il y a une petite brochure qu'on peut trouver sur Info Kiosque qui s'appelle « La culture du valide ». La culture de la valide est partout, mais ne se dit pas. Le validisme, la norme de la valide, régit le fonctionnement de tout le monde sauf les autres, c'est-à-dire les anormaux, les anormales, les résidus défectueux de la société validiste, les handicapés.
Orthopédie à jambe de bois. Orthopédie à jambe de bois. Orthopédie à jambe de bois. C'est comme ça qu'on m'appelle, et celle qui m'a donné la vie, eh ben elle a pas de quoi être fière. D'ailleurs elle n'est pas orthopédie à jambes de bois. Orthopédie à jambes de bois. Orthopédie à jambes de bois. C'est comme ça qu'on m'appelle, et quand on va chez Monoprix, je me planque derrière le caddie. Je regarde les beaux. Chambre de bois. Orthopédie à chambre de bois. J'aime bien Eddie Mitchell. Je mets son poster dans mon lit et puis j'enlève tous mes habits. Je l'embrasse sur la bouche. Des fois ma mère m'appelle. Je lui dis tais-toi, je fais l'amour. Quand tu le fais, t'aimes pas que je te regarde. Alors elle, elle rigole. Après j'attends la mort, et entre deux je dors. Orthopédie à jambes de bois. Orthopédie à jambes de bois. Orthopédie à jambes de bois. C'est comme ça qu'on m'appelle. Un jour je vais tous y mettre le feu. Un jour je vais leur crever les yeux. Comme ça ils me verront plus.
On vient d'écouter Les Ailes avec Orthopédia. Et nous avons donc Haroun en direct par téléphone de Reims. Bonsoir Haroun.
Bonsoir Alexia, bonsoir Romain.
Bonsoir.
Donc là c'est la semaine pour le travail des handicapés, pour l'insertion des handicapés sur le marché du travail. Donc on va prendre ça comme excuse pour parler un peu de ça, mais...
Youpi, cette semaine, on a le droit de travailler.
Ah oh, putain, quelle chance.
Non, d'ailleurs, hier, je suis allé à Reims, je suis allé sur Reims à un forum qui se passait au Palais des Congrès,
ouais.
où justement, c'est la grande messe habituelle, quoi, c'est-à-dire que t'as des entreprises qui font, c'est un genre de speed dating.
Hein. Ah, carrément.
Ouais, c'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire que tu as des entreprises qui viennent faire des demandes de recrutement avec emploi, poste d'emploi proposé. d'un côté de la salle, et de l'autre côté de la salle, tu as les travailleurs handicapés qui déposent leur CV. Et donc, chacun essaye de voir quel point d'accord il peut essayer de trouver. Alors, moi déjà, ce que j'ai quand même noté, c'est que, une fois de plus, c'est soit du précaire de chez précaire, c'est-à-dire de l'emploi sous-qualifié, ou soit de l'emploi surqualifié. Alors, en discutant un peu à droite à gauche, je me suis aperçu qu'en plus de ça, alors ça c'est pour les demandes de recrutement, et pour les handicapés qui veulent travailler, souvent voilà quoi, hein, ça reflète la réalité, c'est-à-dire que les handicapés sont sous-qualifiés aussi, il y a très peu, il y a vraiment extrêmement peu de personnes diplômées. Et donc, c'est une tentative de rencontre. Alors, par contre, ce qu'on peut noter quand même, c'est que il y a, c'est que du CDD. C'est vraiment que du CDD. Donc, c'est-à-dire que non seulement les postes sont précaires de par les qualifications, mais en plus, ils sont précaires de par la durée, quoi. Donc, bon, moi, je veux bien qu'on parle de semaine de l'emploi, mais bon, faut aussi un peu remettre les choses à leur place et parler des réalités auxquelles les handicapés doivent les réalités que les handicapés doivent affronter, quoi.
C'est ça. Quand on voit justement l'allocation adulte handicapé au niveau que c'est aussi, donc c'est pareil pour s'en sortir, pour trouver un boulot un peu plus rémunéré, en fait, il n'y a pas, ça n'existe pas. Déjà, on veut pas de vous, et puis sinon, on veut bien de vous, mais on vous exploite sans souci, quoi. Bon, faut pas travailler, quoi, c'est tout.
De toute façon, moi, c'est...
faut pas bosser, merde.
Faut pas se faire exploiter, hein. Faut vraiment sortir des sentiers battus. De toute façon, c'est simple, hein. Si on veut vraiment pousser le bouchon jusqu'au bout, hein, c'est soit ce genre de boulot là, ou en plus, alors oui, parce que j'ai pas parlé non plus des entreprises qui du type d'entreprise qui viennent se déplacer grand seigneur sur le terrain du handicap, hein, c'est-à-dire que tu vas avoir les grands groupes alors bon, là il y avait quand même pas trop de grands groupes. J'ai vu La Poste, les Galeries Lafayette, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y avait la SANEF aussi, qui est une agence d'autoroute, enfin qui elle est évidemment bien implantée sur le secteur géographique dans lequel j'habite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? J'ai eu la chance de voir le listing des entreprises qui étaient contactées. Et effectivement, entre les entreprises qui sont contactées et celles qui répondent, qui jouent entre guillemets le jeu, la différence est énorme.
Hein. Ouais.
Donc là aussi, quoi, hein, c'est bien marrant de parler de politique, de recrutement de handicapés, mais bon, faut voir les entreprises qui finalement dédaignent ce genre de grande messe, quoi.
Oui, et puis au niveau du boulot, c'est assez caché, je pense, en plus, justement dans ces entreprises-là, que les handicapés soient pas trop voyants non plus, quoi, pas trop en contact du public, ou toutes ces choses-là, non?
Alors, écoute, de par mon expérience de travailleur handicapé, j'évite de trop la ramener sur ce sujet-là, quoi, tu vois. Moi, c'est vrai qu'en plus, le métier que je fais est un métier particulier. Moi, je suis tailleur de pierre.
Ouais.
Donc, c'est que ça reste un métier physique. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus un hasard si j'ai choisi ce métier-là, quoi. Il faut y aller, quoi. Hein. Il faut s'affronter à l'ambiance du chantier et puis à ce que ça suppose physiquement parlant, quoi. Mais moi, je veux dire, le gouvernement a beau dire qu'il y a des lois qui sont faites pour que les handicapés se sentent bien dans le monde de l'entreprise. Moi, je suis désolé. Avant de parler de monde de l'entreprise, hein, il faut quand même déjà parler du regard que la société porte sur les handicapés, quoi. Hein. Tout simplement, je crois que le truc, il est là à la base. Hein. Et après, éventuellement, peut-être, on peut parler de conditions acceptables de travail. Hein. Mais bon, moi, je crois que pour l'instant, tout ça, c'est vraiment une vaste blague. Hein. Il n'y a pas, je veux dire, une fois de plus, c'est du boulot précaire qui correspond à des niveaux de qualification qui sont très faibles, qui reflète en plus, d'ailleurs, très bien la situation éducative des handicapés, quoi. Le niveau de qualification dépend aussi de la manière dont les handicapés sont acceptés dans le système scolaire. Hein.
C'est
vraiment quelque chose qui est très complet. Hein. Le problème du handicap, à mon sens, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus vaste que simplement l'insertion par le travail.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Justement, est-ce que tu peux nous parler de ta démarche personnelle? En fait, tu vas beaucoup à la rencontre des gens sur ce problème-là?
Alors,
Réflexion personnelle, quoi, en fait,
là-dessus. Bah écoute, j'essaye, hein.
Une présentation comme ça, un peu générale.
Alors, moi je suis né, avec une malformation congénitale qui touche en fait ma jambe gauche, quoi. Donc j'ai une jambe plus courte que l'autre, avec malformation, avec malformation musculaire et osseuse. J'ai quasiment passé la moitié de mon enfance dans les hostos, quoi. Hein. Je suis vraiment un pur produit du système hospitalier. Et peut-être que je reviendrai là-dessus, mais j'ai été aussi le handicapé qu'on attendait de moi.
Oui.
Voilà.
Ça aussi, ouais, c'est intéressant à en parler aussi.
Voilà, quoi. C'est-à-dire le handicapé qui acquiesce à tout ce qu'on lui dit, qui est courageux et qui a le grand sourire, quoi, hein, et qui prend les choses avec humour. Ça c'est vraiment, je veux dire, cette image là elle est vraiment présente, quoi. Et ça, il faut vraiment bien se le mettre dans le crâne pour bien comprendre aussi toute cette image qui se développe sur le handicapé qui va se prendre en main, qui va se dépasser par le handisport.
C'est ça, ouais.
Voilà, quoi. Ou qui va aussi se dépasser en ayant un niveau élevé d'études. Moi, d'ailleurs, très tôt, on m'a dit passe ton bac et tu feras un métier dans un bureau. Hein.
Bon. Ouais, d'accord.
Bah ouais, ouais, c'est mon ça. Bac, mais pour le bureau, c'est loupé.
Pour pas te faire voir ni rien, mais c'est vrai, en plus, si en plus le handicapé n'a pas le sourire, c'est qu'il est frustré, c'est qu'il est énervé, parce que justement, il a un problème, et que c'est pas du tout la société là, ou la façon dont les valides peuvent parler avec lui ou peuvent le voir, mais c'est forcément toi le problème.
Ben oui, surtout pas, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que la société invente des institutions, évidemment, pour répondre à la situation problématique que crée l'éventualité du handicap dans une existence normale, quoi. Mm. Mais bon, voilà, une institution, c'est tout simplement le fruit, le résultat d'une norme de la société, hein, et c'est rien d'autre, hein. Moi, dans mon parcours de gamin des hostos, j'ai subi à multiples reprises des opérations qui, évidemment, m'ont évité de devenir bossu, hein, parce que c'est ça, en fait, hein, le résultat de quelqu'un qui a une jambe plus courte que l'autre. Il a une scoliose qui est assez incroyable et il est complètement déformé à terme. Bon, très bien, c'est très bien que la médecine fasse des choses pareilles. Cela dit, est-ce que la solution, enfin moi, ce qui s'est passé dans mon vécu, c'est que j'ai été quand même et pour beaucoup de personnes de ma génération, maintenant je veux pas parler au nom de la génération actuelle, mais pour beaucoup de personnes de ma génération, on a été complètement coupé de notre famille, quoi. Hein. Ça c'est oui, sûr. C'est ça. Hein. Donc est-ce que le geste thérapeutique vaut le coup de séparer le gamin des hostos de sa famille? Moi, je évidemment, ma réponse est non, quoi.
Oui, c'est ça.
D'autant plus que pour moi, ça répond parfaitement aussi à cette volonté de la société de ne pas voir le problème tel qu'il est.
Oui. Tout à fait. Bah, si t'as un problème, t'es à l'hôpital, on ne voit pas, et puis voilà, et puis on cachetonne, on te rééduque, on se fait, comme il y a marqué dans la brochure d'ailleurs, la valide way of life, parce que voilà, et puis en te coupant de la réalité dont tu n'as pas accès, toi, entre guillemets.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que tu peux. C'est-à-dire que tu cours en tant que handicapé, tu cours après un modèle de la norme, quoi. Mm. Alors déjà, lorsque tu es bien sur tes deux pattes, on te force à courir après ce modèle-là. Moi je suis désolé, hein, je connais personne dans mon entourage ou hors entourage qui réponde au modèle dominant qui est celui d'être un mâle hyper séduisant,
jeune, riche,
voilà,
super intelligent,
intelligent et tout ça. Ouais, ça c'est de la foutaise, quoi. Alors déjà c'est de la foutaise pour la norme. Bah pour nous on est encore sur une autre planète, quoi.
On a de l'avance pour être contre la norme, nous, en fait.
Eh ben oui, moi je pense que effectivement c'est ça la clé et l'intérêt d'aborder le handicap sous un angle vraiment critique, quoi. C'est que le jour où vraiment on arrivera à soulever cette question comme étant une question de fond, mais je pense que la société normative va pouvoir compter ses abattis, quoi.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Et bon, tu vois, en plus de ça, l'enfermement des handicapés en milieu institutionnel rejoint aussi l'enfermement des vieillards dans les hospices.
Ouais.
L'enfermement des taulards. Parce que bah voilà, quoi, il y a aussi des questions sociales que la société refuse de voir, et donc elle préfère l'enfermement. Et puis il y a aussi la question de l'enfermement psychiatrique, hein,
ouais,
qui là touche tout le monde, quoi. Hein.
Oui, tout à fait. Ben, on va revenir là-dessus, on va écouter donc le Club des Losers.
J'aime ma petite amie parce qu'elle est jeune et très jolie. Et qu'en toute circonstance, elle garde la tête sur les épaules. Ce qui en fait est la moindre des choses de la part de quelqu'un ayant déjà perdu ses deux jambes dans un triste accident. Elle peut tenter d'en finir, mais je lui dis de ne pas le faire. Il ne faut pas qu'elle baisse ses bras, sinon elles vont frotter par terre. Il arrive que notre couple marche moins bien, même si toujours mieux qu'elle. De la tête au fauteuil, je la trouve toujours très belle. N'aimant pas l'avoir souffert, j'essaye de la complimenter. Chérie, tu es ma Vénus de Milo inversée. Pour moi, rien n'a changé, j'ai toujours été à tes pieds. Disons que depuis l'accident, je suis simplement un petit peu remonté. Dans la vie, chacun doit trouver chaussure à son pied. Heureusement, il te reste encore tes mains, donc laisse-moi être ton gant. Si mon amour pour toi devait être comparé à ta taille, je dirais qu'il est plus grand, forcément.
Je n'ai pas de chance.
Ce n'est pas grave, tu sais, je t'aime quand même.
Je n'ai pas de chance.
Ce n'est pas grave, tu sais, je t'aime quand même.
Je n'ai pas de chance.
Ce n'est pas grave, tu sais, je t'aime quand même.
Je n'ai pas de chance.
Ce n'est pas grave, tu sais, je t'aime quand même.
À part ça, c'est cool, dans la vie tout roule.
enfin, surtout elle. Pour ma part, je pousse. Cela me laisse souvent sur les rotules, mais elle ne sait plus ce que c'est. Elle n'a peut-être plus de jambes, ça n'empêche pas de prendre son pied. Avant de lui faire l'amour, je l'embrasse tendrement, écarte délicatement ses deux moignons, la contemple et lui m'introduit en elle. Ma main caresse ses seins doucement, saisit ses reins lentement, la pousse qui moins. C'est ma petite toupie qui, en pleine excitation, aime opérer des rotations. Elle tourne, 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 tourne autour de mon pénis. Je continue jusqu'à ce qu'elle jouisse. Sa paranoïa la pousse à penser que je finirai par la tromper avec une femme ayant un truc de plus qu'elle, une paire de jambes. À l'oreille, je la rassure, ironiquement lui susurre. Et comme cadeau d'obture, je t'achèterai des chaussures. Ne sois pas bête, tu sais, je t'aime.
Je n'ai pas de jambes.
Ce n'est pas grave, tu sais, je t'aime quand même.
Je n'ai pas de jambes.
Ce n'est pas grave, tu sais, je t'aime quand même.
Je n'ai pas de jambes.
Ce n'est pas grave, tu sais, je t'aime quand même.
Je n'ai pas de chance.
Ce n'est pas grave, tu sais, je t'aime quand même. Jamais je ne pourrai oublier cette magnifique journée où nos regards se sont croisés. C'était à Invalide, avec moi elle fit ses premiers pas dans la vie amoureuse, mignonne mais déjà handicapée par sa timidité. Blessée par son accident, je n'aime pas trop l'évoquer. Préfère raconter que nous avons fait une partie de jambes en l'air et que mystérieusement les siennes ne sont jamais retombées. Non, pour les vacances nous n'irons pas encore à l'aune. Tu sais, les jambes à l'inverse des cheveux, ça ne repousse pas. Tu ne comprends pas, disons que tu es chauve du bas. Mais moi cela ne me dérange pas, ma grand-mère avait des corps aux pieds, ma petite amie n'a pas de pieds au corps. De toute façon pour moi tout ça ce n'est qu'un détail. Donc arrête d'écouter tous ces gens qui te disent qu'entre nous cela ne tient pas debout. Tu es ma femme et je t'aime, un point c'est tout. Si la vie t'a pris tes jambes, mon amour te donnera des ailes. Mais cette fois, ne les perds pas.
Je n'ai pas de jambes.
Ce n'est pas grave, tu sais, je t'aime quand même.
Je n'ai pas de jambes.
Ce n'est pas grave, tu sais, je t'aime quand même.
On ne peut pas avoir détruit l'accueil des enfants handicapés à l'école.
Il y a trois fois plus d'enfants handicapés scolarisés aujourd'hui qu'à votre époque, madame.
Ce n'est pas vrai.
C'est faux. Je ne me serais jamais permis.
Les enfants handicapés.
Je ne me serais jamais permis, madame. Je ne pense pas que vous élevez la dignité du débat politique en
m'accusant
d'être menteur.
C'est très digne la question du handicap.
Alors, Haroun, c'est très digne la question du handicap.
Bah moi j'aimerais surtout qu'eux ils parlent de leur dignité. J'aimerais savoir comment Sarko il peut arriver à se raser le matin alors qu'il sait très bien que c'est un fumier quoi, et que Ségolène Royal, elle, je me demande comment elle peut parler vraiment de dignité, sachant que le Parti Socialiste a complètement récupéré toute la sève militante du handicap qu'il y avait dans les années 70, quoi. Parce que en fait, à l'heure actuelle, effectivement, on part de zéro, quoi. Mais il s'est passé quand même énormément de choses au niveau de la militance du handicap. Ça, c'est une histoire qui n'est pas dite, hein, ou alors qui commence à être un petit peu réécrite. Un petit peu réécrite, alors par certains, bon, après, il y a des sites qui parlent de l'autonomie, qui sont du mouvement politique autonome, hein, des totos, quoi. Hein.
Ah oui ?
Ouais, parce qu'en fait, il y a eu vraiment des handicapés autonomes, quoi, et autonomistes, hein, qui ont vraiment fait du boulot de réflexion, de fond, et ce qui, d'ailleurs, a été récupéré par des associations comme l'APF, dont je fais partie.
Oui. Donc, mais tu peux, hein.
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein.
Bah oui.
et en fait, si tu veux, là, on parle actuellement de toutes ces questions de vie sexuelle, de qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, de travail, de choses comme ça, quoi. Mais si tu veux, moi j'ai... Je me suis quand même, ça fait un moment hein, que je me renseigne sur ces questions-là, et il y a quand même eu, avant la fameuse loi de 75, il y a quand même eu donc le comité de lutte des handicapés qui a rédigé une charte. Alors j'en ai qu'une partie quoi, hein, mais
oui, c'est intéressant ça.
Là je peux vous en lire.
Ah oui.
Je peux vous en lire quelques points. Hein. Alors première partie emploi. Alors, le truc, c'est, je tire ça de Champ Social, qui est une revue qui était éditée dans les... là, ça date de 78.
D'accord.
Alors, droit au travail pour tous les handicapés, au même titre que tous les travailleurs, ce qui exige une lutte immédiate et systématique contre les cadences, les rendements et les primes en tout genre. Suppression des ateliers protégés et des CAT, de tous les lieux de rentabilisation, de surexploitation de la misère, y compris du travail à domicile. Accessibilité et aménagement de tous les lieux de travail, à qualification égale, salaire égal. Droit à la formation, à la qualification, à la promotion professionnelle, quel que soit le degré du handicap. Égalité devant la titularisation dans le secteur public. Bon, et puis après, il y a encore pas mal de choses, hein, je vais pas tout vous faire. Mais enfin, c'est vraiment des questions qui sont anciennes, quoi. Faut vraiment que là-dessus, on arrête de mentir au peuple, et surtout qu'on arrête de mentir aux handicapés en disant que il y a une grande prise de conscience depuis la fin des années 90, et que ça va être beau, ça va être gentil. Non, pas du tout. Il y a déjà eu tout un tas de lois qui se sont faites déjà au début du XXe siècle, suite à la Grande Guerre, hein, puisque c'est à ce moment-là que naît vraiment cette conscience de masse du handicap, hein, oui. Par rapport aux mutilés. Ensuite, il y a Vichy fait des choses, puisque évidemment, dans la bonne vieille charité de droite, et il faut faire des œuvres charitables par rapport à ça. J'oublie de dire que les grandes associations du handicap telles que l'APF naissent dans les années 30. Alors, sachant que l'APF, à l'origine, c'est le moyen de mettre en liaison des handicapés entre eux pour rompre l'isolement, mais que à l'heure actuelle, c'est un lobby énorme, hein, c'est la deuxième association de France, 42e PME de France par la gestion des ateliers des entreprises adaptées et des ateliers les anciens CAT, hein,
oui.
Voilà, les anciens CAT, ce qu'on appelle les ESAT maintenant. Donc l'APF a maintenant surtout une politique gestionnaire et de lobby, mais bon, peut-être qu'on pourra reparler de l'efficacité de tout ça, quoi. Donc, voilà, en 75, il y a cette fameuse loi d'orientation qui parle de l'accessibilité, déjà. Hein? Ensuite, dans les années... parce que je m'en mêle pas les crayons. Dans les années 90, il y a la création de la GFIP avec l'obligation...
Oui.
Pour les entreprises de s'acquitter d'une amende. Alors, je ne sais pas s'ils mettent exactement le terme amende, hein, parce qu'il faut faire passer la pilule qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés ne s'acquittant pas de l'obligation d'embauche de 6% de travailleurs handicapés à payer une amende. Il y a ça.
Sinon, ils ont des charges en moins s'ils s'en emploient, et puis s'ils s'en emploient pas, ils ont des amendes.
Voilà. S'ils s'en acquittent pas, ils ont des amendes. Sachant qu'après, il y a plein d'aménagements. Hein,
c'est bien fait. Hein.
Voilà, c'est vraiment magnifique. Tout est fait pour les handicapés. On n'y croit pas comme ça, mais si, tout est fait pour les handicapés. il y a ça. Et puis là, en 2005, on arrive, Jacques Chirac, le chevalier blanc, débarque avec sa fameuse loi de 2005. Quoi, hein, la loi de l'égalité des chances. Alors, je reviens sur 1975. En 1975, Chirac, à l'époque, était ministre aussi.
Oui.
Tu vois ? Donc, en fait, si tu veux, là aussi, il y a un truc qui est assez bizarre par rapport à la gauche, quoi. C'est que t'as les deux lois fondatrices du handicap... Qui se font sous la droite, quoi, tu vois.
Oui.
C'est quand même étrange, hein.
Oui.
Et par contre, tous les militants qui ont fait du super boulot, eux, ils se sont fait bouffer par le PS et par le PSU, quoi. Voilà. Et ça, vraiment, moi, Enfin, je suis vraiment attristé parce que, en plus, enfin, je veux dire, quand tu vois l'histoire qu'il y a derrière, quoi, il y a vraiment eu une réflexion de fond, une lutte, une tentative et des pratiques de lutte commune avec des personnes qui étaient complètement rejetées par la société. Hein. Pour ceux que ça intéresse, il y avait le FLAM, FLAM. Et le mouvement Marge qui était vraiment dans ce truc-là, quoi, où ça regroupait à la fois des handicapés, des toxicos, des prostituées, oui. Des loulous, enfin voilà, quoi, c'était vraiment quelque chose de très très intéressant au niveau du regroupement des luttes, quoi. Et ben tout ça, ben voilà, quoi, hein, de toute façon, on sait très bien le mal que le pouvoir, le pouvoir socialiste a fait à partir des années 80. Sur tout ce qui pouvait être vraiment réflexion profonde et pratique profonde de lutte sur des questions sociales, quoi.
Ouais, tu parles des années 70, en fait.
Moi, je parle des années 70, ouais, du fait qu'il y avait des handicapés qui étaient vraiment engagés dans le mouvement chez les totos, quoi. Tu vois.
Bah, c'est ça. Mais alors là, c'est une question en plus générale, mais tout à fait personnelle aussi. Maintenant, justement, en tant qu'handicapé, pour lutter, pour faire des choses comme ça, c'est assez compliqué, non? Haroun.
C'est plus que compliqué.
C'est impossible.
Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que y a des choses qui existent. Alors, effectivement, tout le monde pense à ni pauvre ni soumis.
Ah non, au secours.
Alors voilà, moi, ni pauvre ni soumis, y a vraiment, moi j'ai vraiment du mal, quoi.
Alors vas-y, explique-nous, comme ça les auditrices et auditeurs vont savoir peut-être.
Alors, bah, tout simplement, pour moi, ni pauvre ni soumis, c'est un outil alors militant entre guillemets qui a été créé par les grandes associations de représentation de représentation des handicapés, hein, tout simplement pour agiter une marionnette devant les gouvernements, quoi. C'est-à-dire que le truc est là, c'est que on va montrer des handicapés dans la rue.
Oui.
On va essayer de faire un mouvement de masse. Bon, ça là-dessus, on peut en reparler. Et comme ça, ensuite, pendant ce temps, on fait notre petite cuisine dans les coulisses ministérielles. Dans la pratique, comment ça se passe? Il y a eu deux grandes journées, ni pauvres ni soumis. Une il y a deux ans, où il y a eu, je sais plus, je crois, 30 000 handicapés à Paris, je crois, c'est ça.
C'est, hein, ça,
ouais. Je sais pas, moi. Moi, déjà, j'ai pas voulu y participer, parce que, déjà, ni pauvre ni soumis, moi, je suis désolé. Déjà, utiliser le slogan de Fadela Amara.
C'est clair. Voilà. Alors déjà que elle, ça va pas. Déjà son mouvement, ça va pas du tout. Alors déjà, en plus, alors franchement, là, pas du tout, quoi.
Alors que vraiment, il y a la possibilité de sur la problématique du handicap, il y a vraiment la possibilité de faire des choses originales. Donc déjà,
justement,
rien que ça à la base, pour moi, ça me pose un problème, quoi. Alors. Bon, grand succès il y a deux ans. Cette année, moi, je suis allé avec un copain à Paris. En plus, bon, bah voilà. Maintenant, moi, je suis de la famille, hein. Je suis de la PF. Hein.
Hey, la grande famille.
Je suis de la famille. Hein. Donc, je suis allé à Paris pour voir ce que ça allait donner. Ben, j'ai été bien servi. Hein. Réunion place du Troca avec Alors, évidemment. APF en première ligne, les différentes fédérations APF, APF de l'Oise, APF machin, APF truc, enfin bon, voilà, il y avait ça déjà.
Ouais, ça fait comme une manif de valide, mais c'est autre chose, c'est CGT, machin, et tout, c'est les mêmes plans, en fait, ça se déroule pareil.
Exactement, sauf que, en plus de ça, c'est, donc, on sort les handicapés, et c'est les accompagnants qui sortent les handicapés.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc, moi, là, si tu veux, sur une question vraiment de pratique politique...
D'autonomie, de...
D'autonomie, tout ça, là, déjà, il y a un problème, quoi.
Hein? Ah oui, non, là, c'est clair.
Là, ça, c'est sûr. Ça, déjà, ça peut pas passer, quoi. Ça, déjà, on peut pas... On peut pas. Je comprends hein, que après faire du militantisme quand on est handicapé, c'est très problématique. Je comprends que ça fatigue. Je comprends que bah, on puisse pas faire des actions. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, que les valides font. Mais
bah oui, c'est
ça. Il y a quand même toute une réflexion et une pratique à aborder sur justement les moyens qu'on peut se donner d'agir. Avec en tant que handicapé quoi. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire quoi. Alors bon, déjà c'était donc il y avait ça. Donc la sortie donc les accompagnants qui sortaient leur handicapé quoi.
particulier.
Alors c'était vraiment en plus, bah il y avait le stand quoi, il y avait le stand qui regroupait toutes les associations. Moi, je tiens à préciser que dans tout ça, les seuls qui tiraient la gueule et qui avaient un discours politique vraiment clair, eh ben, c'était ACT UP, quoi.
Ah bah oui.
Voilà. Quoi,
ah, bah, ça quoi, m'étonne hein. pas.
Mais... Et c'est étonnant, quoi. Donc voilà. Alors il y avait, c'était la colonie de vacances, comme disait le copain avec qui j'étais, quoi. C'était vraiment la colonie de vacances, hein. Donc ouais. Voilà, avec les chansons, enfin c'était le bal quoi, tu vois, c'était vraiment le balus. Hein. Et donc, la grande action symbolique qui s'est passée sur la place du Troca, c'était que les handicapés devaient tourner autour de barrières Vauban, qui étaient installées place des droits de l'homme, hein, sur lesquelles étaient punaisées ou affichées des photos de handicapés. Ah. Alors bon, déjà, il y avait ça, quoi. Donc, tu vois, déjà, rien que pour le côté de la pratique militante, moi...
Ça pose problème, ouais.
Ça pose problème.
Okay, bah, okay.
Alors, en plus, là, ce qui m'a encore vraiment plus énervé, quoi, c'est que donc, t'avais donc le discours de Jean-Marie Barbier, qui était centré sur le relèvement de l'allocation adulte handicapé à hauteur de 25%. Hein, ce qui était une promesse à Sarko, quoi.
Ouais.
Donc déjà, au niveau de l'engagement politique, moi, je suis désolé. Hein. Si c'est juste pour reprendre un discours à Sarko, on peut le faire autrement. Et justement, ça s'est fait autrement parce que peu de jours après qu'il y ait eu cette grande journée ni pauvre ni soumis, qu'est-ce qu'il y a eu comme par hasard? Tiens, l'annonce du relèvement de la hache à 25%, mais étalé sur, je ne sais plus, un certain nombre d'années, quoi. Donc, je veux dire, là aussi, qu'on a de se foutre de la gueule du monde, quoi.
Ben, c'est clair. Hein. Puis là, ils vont la baisser de 3%, moi, j'ai entendu dernièrement, non?
D'accord. Ben, voilà, quoi.
Sur tout ça, quoi.
Mon triste fou. Pensons à Albert Libertat, qui, à la belle époque, c'était un scandaleux estropié, qui révolutionnait tout autour de lui. Il chargeait à la béquille les meetings politiques de toute farine. Il montait sur les estrades, il se coulait sur son derrière et avec ses bâtons, il incitait les pioupiou à la désertion. Il chantait dans les rues et dans les ateliers la grève des gestes inutiles. Il cramait les papiers d'identité passant à sa portée. Il surgissait dans les églises au beau milieu des offices et il traitait les prêtres officiants de sales crapules et les fidèles agenouillés devant eux de pauvres veaux. Il dévastait les cimetières en pestant contre le respect de la mort, le culte de la charogne. Et il se gaussait des couples capsulés petits bourgeois en ne se mettant en ménage qu'avec des sœurs. Viva Albert Libertat.
Forêt reclus à l'Elysée, sur Radio 103, sur Internet, radiopérigueux103.com et l'audioblog d'Arte Radio, Forêt reclus à l'Elysée. On vient d'écouter un petit extrait d'Altra, le film de de Kervern et d'Elépine, qui est à fond dans le sujet d'aujourd'hui, avec une référence à Albert Libertad. Toujours pour parler du côté politique du handicap, avec Haroun. Ça serait bien, en fait, dans le temps qui nous reste, il nous reste une vingtaine de minutes, qu'on parle des luttes actuelles, peut-être du mouvement pour la vie autonome, de la lutte du Bersac qui a eu lieu cet été. Je sais pas, des perspectives de ces luttes-là, de comment toi tu vois ça, Haroun.
Alors, pour la lutte, pour introduire la chose, moi la lutte du Bersac, j'étais là.
Ça serait bien est-ce que tu peux juste rappeler un peu ce que c'est, ce lieu de vie?
Alors, voilà. Du côté de Gap, il y a eu une lutte qui s'est menée autour d'un lieu de vie. Donc un lieu de vie, qu'est-ce que c'est? C'est une microstructure qui à l'origine a été créée dans le mouvement de l'antipsychiatrie. Hein. C'est à l'origine c'est ça. C'est vraiment une pratique liée à l'antipsychiatrie. C'est créé une microstructure dans laquelle il y a des personnes qui elles sont considérées comme éducateurs. Mais à l'origine vraiment, c'était pas nécessairement des éducateurs, c'était des personnes comme n'importe qui, quoi, qui décidaient de prendre en main la question de la psychiatrie. Il y a notamment un lieu qui est assez connu, quoi. Il y a le Choral qui a été géré par Sigala, enfin qui continue d'ailleurs d'être géré par Sigala, et il y en a un autre et j'arrive plus à me souvenir, donc comme j'ai la tête pleine de trous, c'est pas grave. Donc voilà, c'était vraiment une proposition alternative au milieu institutionnel, parce que c'est que un lieu de vie.
Et sur le principe en fait d'autonomie et de participation des gens qui se font soigner, des gens, voilà, c'est ça.
Voilà, c'est-à-dire ne pas avoir une dépossession de sa propre vie, quoi. Mm-hmm. Et vraiment participer entièrement et pleinement à la vie du lieu, quoi. Alors que lorsqu'on est en institution, évidemment, on est dans un assistanat pur et dur, quoi.
C'est ça, ouais.
Alors pour le Bersac, c'est un petit peu spécial parce que le montage du lieu est assez particulier dans ce sens où le lieu de vie a été monté par une association, enfin par des éducateurs travaillant dans une association qui est la DSEA 05, l'association départementale de la sauvegarde de l'enfance et des adultes, qui est une association qui en fait a une pratique institutionnelle. Donc avec des foyers et avec des ateliers protégés.
D'accord.
Donc bon, déjà c'était assez bancal. Mmh. Et en fait, le lieu en lui-même était en fait une ferme qui appartenait à une personne dont un membre de la famille était pris en charge par la DSEA. Donc il y a eu un viager qui a été fait sur la tête de la personne qui était donc handicapée mentale. Et donc une fois que ça a été fait, donc la DSEA a pris en charge le lieu. Bon, je fais vite. Cette année, il y a eu une redéfinition complète du lieu de la ferme du Bersac, puisque la DSEA entendait transformer la ferme en un lieu d'habitation pour des travailleurs handicapés travaillant en CAT. Et ce CAT doit être construit sur le terrain même de la ferme. Et ça consisterait en une cuisine centrale, donc faisant travailler des travailleurs handicapés qui, eux, pour le coup, sont rentables,
oui.
Au contraire des habitants de la ferme. Hein? Donc, il y a eu déjà une complète opacité sur le montage du dossier.
Oui.
L'équipe d'éduc a bien souvent été informée par voie de presse. Alors, en
c'est
plus,
sympa, ouais.
Voilà, il s'agit du Dauphiné libéré, que les habitants locaux appellent le daubé, et c'est pas pour rien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les handicapés, donc c'était des handicapés mentaux, et il y en avait et une partie de psychiatrisés, hein. Et donc, les handicapés ont tout simplement été expulsés de leur truc. Alors, sachant que au départ, on devait les reloger dans un lieu équivalent, ce qui évidemment était une vaste blague. Et donc, certains ont été relogés en HLM, d'autres sont retournés à l'institutionnel, et il y en a un qui est psychiatrisé et qui apparemment, selon un des éducs qui bossait là-bas, qui risque d'y terminer probablement ses jours, quoi. Donc ça a été fait après. Donc entre-temps, il y a eu une occupation de la ferme pour protester contre cette pratique, quoi.
Oui.
Alors en fait, la lutte a été montée à l'origine par une partie des éducs qui travaillaient dans la ferme et qui ont contacté la CNT. Donc du coup, là-dessus, c'est greffé le milieu de la militance alternative et le milieu du squat.
Oui.
Donc avec des pratiques d'occupation. Alors moi, j'y suis allé parce que je pensais que, sur le coup, j'allais y trouver des handicapés. Et bon, je suis sûrement naïf et idéaliste, et je pensais qu'il allait y avoir vraiment quelque chose qui allait être intéressant au niveau des échanges, quoi.
Oui.
Et malheureusement, je mets un bémol à mon malheureusement, hein, parce que la lutte était quand même intéressante. Mais malheureusement, moi, j'étais le seul handicapé. Et moi, je suis désolé, hein. Tout ce que je dis là actuellement, c'est le fruit de mon propre point de vue, hein. Je suis aucunement oui. représentatif de quoi que ce soit, quoi.
Bah heureusement, ah, parce que voilà. Des fois on porte le drapeau aussi de trucs, tu es handicapé, les trucs. Non, tu représentes pas ni la CNT, ni la PF, ni rien du tout.
Oui. Voilà.
Mais en tout cas, tu te représentes toi-même et c'est vachement bien. Donc oui, pour en revenir au Bersac.
Donc pour en revenir au Bersac, donc du coup, il y avait qu'un seul handicapé, c'était moi. Et donc, moi j'ai essayé de voir un peu comment on pouvait aborder, en plus de la lutte même, hein, de l'occupation de la ferme, sachant que de toute façon on s'est fait expulser, hein, puisque la justice a soutenu la DSEA dans sa démarche, donc on s'est fait expulser par une centaine de gendarmes pour expulser une vingtaine de militants, bon, bref. j'ai essayé de voir comment on pouvait essayer de construire quelque chose au niveau de la militance et comment les handicapés pouvaient être mêlés à ce genre d'action-là. Et là, ça a été un peu un grand flop, quoi, un grand vide. Et ça a été d'autant plus le flop que, moi j'ai expliqué que à la base, moi mon envie, mon désir par rapport à ça, c'était de rencontrer des personnes qui étaient habitantes de la ferme. Bon,
oui.
En fait, c'était pas possible dans les faits, puisque ces personnes-là étaient éloignées de force du lieu. Elles étaient en vacances, quoi. Donc en général, ça se fait souvent, hein, dans le milieu institutionnel avec les handicapés mentaux, c'est-à-dire que ils font ils passent des vacances ailleurs, quoi.
Oui.
Bon, moi je sais pas le bien fondé. J'avoue que j'ai pas réfléchi à cette question-là. Bref. Mais alors, du coup, j'ai essayé de voir comment on pouvait construire une militance et des pratiques militantes là-dessus.
Oui.
Alors, lorsque je parle de ça, je m'exprime en tant que handicapé moteur.
Oui. Oui.
Mais
c'est pas la même chose que.
C'est pas la même chose que des handicapés mentaux.
Et oui.
Et ça, il faut être clair là-dessus. Il faut être clair, parce que sinon, une fois de plus. Alors, évidemment, lorsque j'ai dit ça, on a un peu regardé de travers, en me disant, mais dis donc, tu fais des différences entre handicapés. Mais bien sûr que je fais des différences entre handicapés. Mais je ne mets absolument pas de hiérarchie dans tout ça.
Ben non. Bien sûr que non, mais c'est-à-dire qu'il faut pas tout mélanger, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas la même façon de travailler sur le handicap ou de militer non plus. Enfin, je veux dire, faut pas tout mélanger et te dire oui, c'est toi qui fais la différence. Non, ce sont eux qui mélangent tout, c'est pas pareil.
Voilà, moi je pense que il faut aussi aborder les choses. Alors, c'est toujours pareil, hein. C'est que le handicap, qu'on le veuille ou non, à l'heure actuelle, dans la société telle qu'elle est foutue, c'est le handicap, c'est générateur de culpabilité. Hein.
Oui.
On est tous issus d'une société qui, de toute façon, refuse de voir les problèmes de l'existence en face. Donc, lorsque tu refuses de les voir, soit tu deviens... soit tu te coupes de tout et puis t'en as rien à foutre, soit tu culpabilises un max, ou soit tu milites... Et dans ce cas-là, tu développes des névroses et tu as plus tendance, du coup, lorsque tu abordes des questions liées au problème de l'existence et liées au handicap, tu as plus tendance à t'intéresser à l'antipsychiatrie, quoi, sachant que ça nous guette un peu tous, quoi, tu vois.
C'est beaucoup plus facile. Non, mais c'est vrai en plus, hein, parce que c'est plus dur de dire oui, je vais militer justement pour le handicap et tout machin dans les milieux militants. Je sais pas, mais je vois pas, tu vois, arriver pour faire une action, un truc sur le handicap, quoi. Moi, j'ai jamais pu et j'ai jamais osé le dire en plus, parce que je me suis dit, ça y est, je vais, c'est trop égoïste, si je puis dire. Ça me parle qu'à moi sur tout le monde, donc on va fermer sa bouche, puis on va pas parler de ça, quoi.
Oui, mais pourtant.
C'est une lutte énorme, oui.
Et oui, c'est une lutte énorme. Et puis, en plus, ça touche à la fragilité de l'existence, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut avoir un travail de fond. Tu vois, en début d'émission, vous citiez le texte de Zig, la brochure de Zig.
Oui.
Moi, je m'étais amusé à faire une petite recherche sur Internet et à comptabiliser les occurrences qui sur Google par rapport au texte de Zig. Et en premier lieu et vraiment à une écrasante majorité,
oui.
Le texte de Zig a été cité par les sites LGBT, quoi.
Ah oui.
Ouais. Mais vraiment c'est impressionnant. Ensuite, un petit peu le mouvement, un petit peu les alternatifs, et quasiment pas les handicapés, quoi. Voilà. Donc tu vois là aussi, je veux dire, bon, là je parle des alternatifs, mais avant tout, c'est quand même aux handicapés de prendre la question en main, quoi.
Oui, justement, pour conclure, en fait, est-ce que tu peux nous dire, nous parler un petit peu du mouvement pour la vie autonome?
Alors, le mouvement pour la vie autonome, ça concerne surtout des personnes qui, des handicapés qui sont vraiment en complète dépendance. Donc, ça concerne, essentiellement. Ce mouvement pour la vie autonome est essentiellement composé de handicapés qui ont des maladies qui les empêchent de vivre sans assistance.
Donc, d'accord.
Alors, ce qu'il y a de très intéressant là-dessus, c'est qu'il y a eu donc toute une réflexion de fond et une pratique qui s'est mise en place sur comment faire passer à la sécurité sociale le fait que, de toute façon, on avait besoin d'une assistance complète. Sans quoi, tout simplement, on claquait, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est tout simplement quelque chose qui se passe sur un enjeu vital à l'origine. De ce que j'ai compris, alors après, si les autonomistes m'écoutent, je vais sûrement me ramasser une volée de bois vert, mais bon, je maîtrise pas non plus complètement le sujet. Hein. par contre, ce que ça implique aussi, c'est que du coup, en plus de ce pronostic vital qui est engagé, engagé, ben, du coup, c'est surtout comment prendre en main et décider de ses propres choix, de son propre système de vie, quoi. C'est-à-dire, tu vas apporter... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça fonctionne par ce qu'on appelle un système de pérémulation. C'est-à-dire que tu as des handicapés qui vont échanger des informations et des techniques et des pratiques sur la manière de devenir autonome et la manière d'aménager son quotidien. Donc ça concerne par exemple l'aménagement de l'appartement, quoi.
Oui.
Mais ça va aussi concerner, et c'est là où il y a tout un travail de fond qui reste à faire, ça va concerner le travail des assistantes ou des assistants.
Oui.
C'est-à-dire comment quelqu'un va pouvoir assister un handicapé sans être trop présent. C'est-à-dire sans rentrer, si tu veux, dans cette pratique maternante ou infantilisante.
C'est ça.
Voilà. Et c'est vraiment ça, tout l'intérêt du mouvement pour la vie autonome. Alors, c'est un réseau... ce truc-là, en France, s'inscrit au sein d'un réseau européen. En France, c'est quand même, par rapport au reste du monde, c'est quand même... dans le milieu occidental, un des derniers nés. Hein. Évidemment, comme d'habitude, sur des pratiques pareilles, ben, c'est les anglo-saxons et les scandinaves qui sont vraiment à la pointe de ce genre de choses-là, quoi. Hein.
Ouais, comme d'habitude, quoi.
Voilà. Alors, pour ce qui est de l'Europe, c'est ce qu'on appelle l'ENIL. Alors, il y a quelqu'un qui est très représentatif de ça. Ben, il y a Marcel Nuss qui a écrit le livre blanc de la sexualité.
Oui.
Et puis il y a donc aussi Zig qui a écrit la brochure du Valide Occidental, qui est vraiment très très fort là-dessus, quoi.
Ah oui, ouais, moi là j'avoue que c'est vraiment excellent, quoi. Donc vous pouvez aller sur internet, sur Infokiosque, et l'imprimer, la télécharger, la diffuser, parce que...
Et justement, alors, par rapport à ce texte-là, moi je voudrais vraiment lui rendre hommage et bien expliquer à tous les militants qui ont pu lire ce texte-là que vraiment ça parle, malgré le ton incisif qu'il y a, c'est, je crois, moi, quelque chose qui vraiment, j'imagine pour toi aussi, Alexia, hein, c'est que c'est vraiment quelque chose qui nous a parlé en tant que handicapé.
Ah bah oui, non, mais ça c'est clair. Hein.
Voilà, quoi, je veux dire, tout ce qu'il y a décrit là-dedans, c'est vraiment...
C'est ça, la charité, la bonne conscience, voilà. Tout ça, quoi, c'est vraiment... Moi, c'est vrai, je l'ai fait lire à des militants qui m'ont dit, mais... Mais non, c'est pas ça en fait. Mais il est énervé, ce monsieur. J'ai dit non, non. Mais tu n'as pas du tout compris en fait. Mais c'est pas étonnant, remarque Haroun, quoi, des fois qu'il y a ce mouvement-là et ce refus justement de réfléchir là-dessus et de pousser un peu plus loin, quoi.
Bah oui, parce que il faut vraiment, voilà, quoi, dans la société dans laquelle on est, basée sur ces histoires soit d'invisibilisation des handicapés, oui, ou soit sur ces histoires de culpabilité, ben non, il faut arriver à franchir ces barrières-là.
Bon, bah, c'est la fin de l'émission, Haroun. Je te remercie énormément pour cette émission.
Ok.
Et puis, je dis au revoir à toutes. C'est à tous et à dans 15 jours. Au revoir Romain, au revoir Fabrice à la technique.
Merci beaucoup. Oh.
La marche est chez l'homme. La forme la plus elle est constituée
des pas successifs et l'on n'appelle pas l'ensemble des mouvements compris entre le moment où l'une des jambes quitte le sol et celui où elle y arrive de nouveau après avoir oscillé autour de l'articulation coxo-fémorale. Pendant cette oscillation, l'autre jambe reposant au sol en état d'extension soutient le poids du corps. Dès que la jambe en mouvement, allez, passez-la, jambe fixe, le corps s'apprête à tomber en avant, celui-là, jambe en activité, primitivement fléchie, ne s'étendait à son tour, arrête la chute en touchant le sol par son talon. Le pas est terminé.